France Inter, le 18-20.
C'est quoi votre travail? Non mais sérieusement, si vous deviez le définir, vous diriez votre travail, c'est quoi? Si on vous demandait quelle est la finalité de ce que vous faites, si on vous demandait de quoi vous êtes, en quoi vous êtes indispensable, vous, dans la chaîne de votre entreprise, franchement, est-ce que vous sauriez répondre? Parce qu'au fond, peut-être qu'elle est là, la réponse, ou en tout cas partiellement, au problème de burn-out ou de bore-out. Est-ce qu'on ne s'est pas perdu, finalement, dans des réunionites à n'en plus finir, dans des PowerPoint, des slides, des SharePoint pour organiser des process, mais aussi dans ces affaires de bonheur au travail, des concours de post-it, un rose pour la bonne humeur, un vert pour l'humeur de chien. Et merci d'avoir partagé avec nous. Bravo Michel, peut-être que la semaine prochaine, on ira faire un escape game avec tout le bureau, ça va être trop bien pour la cohésion de l'équipe. Notre invité de ce soir aime l'entreprise, comme dirait quelqu'un, mais est aussi plutôt en colère contre ce management hypocrite et stérile du contrôle des bons sentiments, ce sont ses propres termes. Elle veut supprimer les activités ludiques, les slides et aussi les tours de table. Et d'ailleurs, à qui la faute tout ça? Tiens, est-ce que c'est la faute du capitalisme ou de l'entreprise? À moins que ce soit les deux, mon capitaine, on verra ça ensemble. Et après tout, peut-être que vous l'aimez, votre Chief Happiness Officer, votre responsable du bonheur en entreprise. Qu'est-ce qu'on a vraiment gagné en troquant le plus souvent le chevaillon autoritaire contre des chamallows pendant un brainstorming? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. Bienvenue.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Anne-Marie, c'est vous qui commencez. Je vous présenterai notre invité juste après. On vous écoute, Anne-Marie, allez-y.
Bonsoir. Je tenais à témoigner puisque depuis un peu plus d'un an, nous avons échangé nos bureaux individuels contre des open space qu'on appelle aussi des clusters. Et je voulais tout simplement dire que la vie avait beaucoup changé parce qu'on nous parle beaucoup de convivialité. Et je me trouve dans une société, une grande société, avec on a l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, avec bar, vous pouvez prendre votre petit déjeuner, vous avez le sport, vous avez les baby-foot, bien sûr. Ah. Et très important. Et pas en revanche...
On a tous un baby-foot, hein, je vais vous le dire au passage, nous aussi, dans un des services, il y a un baby-foot quelque part.
Et en revanche, la convivialité, non, c'est pas vrai, c'est pas du tout de la convivialité. Je travaille dans un service juridique, ce qui fait qu'effectivement on est obligé d'avoir du silence, mais vous allez dans d'autres clusters, c'est la même chose, vous pouvez être 19 ou 70, les gens n'osent pas parler, parlent tout doucement. Et lorsque vous avez des appels, vous êtes obligé de prendre votre portable, de vous enfermer dans une bulle. Si la personne vous installe bien avec vos documents et avec votre ordi, et là, d'un seul coup, vous appelez, mais la personne n'est pas là. Vous repartez, vous installez. Et donc, vous ne parlez pas aux personnes. Vous revenez de week-end auparavant, vous rentriez dans le bureau, vous parliez à une personne, on arrivait à 2-3, on allait prendre un café. Et à l'heure actuelle, non, ça n'est plus possible.
Pardon, oui. Je vous interromps. Est-ce qu'on vous a posé la question avant de passer à l'open space? Est-ce qu'on vous a prévenu? Est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? Tout ça, rien du tout?
Non. Non, les décideurs, ce ne sont pas nous, c'est pas notre confort. Alors malgré les apparences où ils nous marquent, on a le droit à voir des grandes affiches dans les ascenseurs continuellement, à organiser des animations du type lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde, l'amphithéâtre a été réservé pour regarder les matchs. Mais tout ça, ce ne sont que des apparences. Et d'ailleurs, les gens travaillent de plus en plus en télétravail.
Eh bien justement, tiens, on va en parler aussi de ce fameux télétravail. Anne-Marie, merci beaucoup parce que vous avez bien mis les choses à plat pour démarrer ce téléphone sonne et pour dialoguer avec vous jusqu'à 20h. C'est Julia de Funès qui est là. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste du management et des ressources humaines. Vous avez écrit La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire avec Nicolas Bouzou d'ailleurs. Vous aviez écrit précédemment Socrate au pays des process et c'était chez Flammarion. C'est intéressant ce qu'elle dit Anne-Marie. Alors moi naïvement, je pensais d'ailleurs qu'on était revenu des open space et que tout ce qu'elle décrit finalement avait déjà été documenté en disant fausse bonne idée. Visiblement non.
Non, pas du tout. Ça fait légion, les open space, les technopôles transparents et tout ce qu'a décrit madame, c'est fantastique parce que on voit l'injonction paradoxale qu'on essaye de dénoncer Nicolas et moi dans le livre, c'est-à-dire, soi-disant on fait tout pour les salariés, mais tout ce qu'on fait on leur a pas du tout demandé leur avis. Déjà c'est une hypocrisie de taille. Et deuxièmement, on fait un open space pour la convivialité et en même temps, il faut un silence absolu. Donc c'est si situations-là qui sont très difficiles à vivre pour les salariés, d'être pris dans un étau entre deux contradictions. Et c'est tout ce qu'on essaye de dénoncer à travers plusieurs exemples. Mais l'open space, évidemment, madame a raison d'insister sur le télétravail. Pourquoi il y a cet engouement-là ? Déjà, parce qu'aucune étude ne prouve qu'on travaille moins bien de chez soi qu'en entreprise. Et deuxièmement, parce qu'on n'est plus visible, on n'est plus dans des normes comportementales qu'on doit suivre. Ça fait du bien d'être libre et libéré de ce regard omniprésent sur soi.
Qu'est-ce qui est mauvais, justement, selon vous, dans l'open space et qui est donc totalement contre-productif ? Est-ce que, alors, on a parlé effectivement du silence, la difficulté quand on discute avec des gens. J'imagine Anne-Marie au service juridique qu'il y a des choses un peu lourdes à gérer. S'il faut que tout le monde soit au courant, c'est pas très pratique. Mais il y a plein de paraître aussi.
C'est
surtout
ça. En fait, c'est pas l'open space en tant que tel. Il y aura des exemples et je pense que des auditeurs vont appeler en disant l'open space c'est formidable. C'est pas l'open space en tant que tel, mais c'est le fait de se savoir visible en permanence. C'est très très fatigant d'être en représentation permanente dans toute sa journée. Donc c'est cette usure là de normes qui est fatigante pour les salariés.
Qu'est-ce qu'il faut penser, Julia de Funès, de cet autre mode, pardon, je vais le dire comme ça, qui consiste à avoir effectivement un open space, mais personne n'a de bureau dédié. Donc en gros, le premier arrivé s'assoit sur le premier bureau, puis ça change d'un jour sur l'autre.
Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, mais ça, c'est presque au sens une mythologie, au sens Barthes. Il n'y a plus de place, et il n'y a plus de rôle, et il n'y a plus d'assignation réelle. Et c'est ça, à mon avis, dont souffrent aussi des salariés. Quand on n'a plus de place réelle, on n'a plus de place vraiment existentielle non plus. On peut être n'importe où, et ça se voit encore plus dans les intitulés de fonction, vous le disiez en introduction. On ne comprend absolument plus que font les gens. Donc il n'y a plus de place, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de nom, il n'y a plus de métier qui parle. Et c'est ça qui explique, à mon avis, un bon nombre de maladies dont on parle actuellement, burn-out, bore-out, brown-out et autres. Autre chose.
Ouais, alors burn-out, les gens qui sont débordés, bore-out, les gens qui s'ennuient à en périr. Oui. Et le troisième que vous avez cité ?
Brown-out.
Brown, qui est...
c'est un peu confus, c'est marron, on a perdu le sens de ce qu'on fait.
D'accord, et on ne sait pas définir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Y a-t-il beaucoup de gens qui savent définir effectivement leur travail ?
Alors moi je suis très embêtée, l'autre jour j'étais devant quelqu'un qui me dit...
Qu'est-ce que vous pourriez définir votre travail ?
Alors le mien, il est simple parce que la philosophie a 2000 ans, 2500 ans, on sait que c'est avoir un esprit critique et puis essayer d'expliquer la généalogie des choses et de ce qui est de la réalité. Mais l'autre jour je rencontre un salarié qui est coordinateur de flux et j'étais assez perplexe quand il me dit je suis coordinateur de flux, il me rajoute pour me préciser flux transverse, ce qui m'a beaucoup aidée. et après, on arrive à des additions ou des soustractions en disant, je suis le N-2 du N+1 ou un acronyme, je suis CEO, DRH, etc. Mais trois lettres et pas de visage, encore une fois, pas de place.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes coordinateur de flux, Xavier ?
Oh, pas du tout.
D'accord. Allez-y, on vous écoute.
J'ai un travail qui me donne entièrement satisfaction, mais c'était pas le cas il y a quelques mois. Voilà, en fait, je vous appelle juste pour vous livrer mon témoignage. J'ai travaillé pendant 15 ans dans une très grande entreprise de plusieurs milliers de personnes. Cette entreprise fait tout ce qu'elle peut en matière d'aménagement des bureaux, d'événements ludiques pour les employés, de communication interne et externe pour à la fois motiver ses employés, mais aussi se donner, je dirais, une image entre guillemets cool pour recruter. La réalité est tout autre. Je connais de nombreux collègues désabusés par le cynisme en fait de la féodalité managériale de cette entreprise et le manque de sens de leur travail qui en résulte. Et en fait, donc voilà, moi j'ai quitté cette entreprise il y a quelques mois et j'ai alors pu discuter avec la DRH, donc la directrice du personnel, qui m'a tout simplement dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens cherchent du sens à leur travail alors que elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est le salaire. Et ça m'a évidemment beaucoup surpris d'entendre ça de la bouche même de la DRH. Et pour moi, c'est clairement le signe d'un gros problème culturel.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Xavier. Julia de Funès, on a fait hier un téléphone sonne sur les métiers de la restauration, justement. Et il y a eu un moment dans le dialogue, quelque chose comme ça, qui disait, avant de poser la question du métier qu'on veut faire, on pose les questions de ses conditions de travail, et notamment celles du salaire et autres. Est-ce que ça change aussi le rapport à l'entreprise, finalement, y compris quand on y rentre, quand on est salarié ?
Bien sûr. Mais alors, le salaire, ça peut donner du sens à son travail. Je n'oppose pas le salaire et le sens. Il y a des gens qui ont des postes très modestes, et il suffit d'avoir un salaire, et tout fait sens, évidemment. Je vais travailler pour nourrir ma famille et pour avoir un salaire. Simplement, dans certaines fonctions, le salaire ne suffit plus parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont là depuis 10, 15 ans. Et évidemment, le salaire ne suffit pas à justifier le sens exact de leur fonction. Mais de la part d'une DRH, entendre le sens ne se pose pas, c'est aberrant. C'est tout ce qui peut, une entreprise, c'est un lieu justement qui doit faire sens, c'est un projet commun et qui doit mener des individus dans la même direction. C'est dans le sens, mais dans les trois acceptions même du terme, c'est-à-dire une direction, une signification et puis une orientation. Mais encore une fois, le sens doit se trouver ailleurs aussi. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que le sens, on me demande tout le temps des interventions philosophiques sur le sens en entreprise. Donnez-moi du sens comme si ça tombait comme une manne. Mais le sens est toujours extatique, c'est-à-dire qu'il est toujours dans autre chose. Si ma vie en tant que telle n'a pas de sens, mais c'est parce que je vais aimer mes enfants que ma vie va prendre du sens. Le métier en tant que tel n'a pas forcément grand sens parce que les métiers deviennent de plus en plus techniques, technologiques, mais c'est parce que justement ils vont me permettre de m'accomplir ou d'avoir un grand salaire, j'en sais rien, mais peu importe les justifications. Mais il faut trouver le sens ailleurs que dans le métier en tant que tel.
Mais peut-être qu'on prend les choses à l'envers aussi. On se dit, alors, c'est ce que disait, ce que racontait Xavier sur cette idée d'image cool de l'entreprise. On prend les choses à l'envers parce qu'on se dit que si les salariés, au lieu de se demander si les salariés sont heureux, donc ils feront du bon travail, on essaye de faire en sorte que, on leur donne des baby-foot et autres. Comme ça, ils travailleront mieux.
En fait, mais au nom de quoi, en fait? C'est exactement ça, le raisonnement un peu pernicieux. Et encore une fois, c'est pas l'attaque des managers. Ils suivent une mode, le monsieur l'a dit. Mais c'est, le raisonnement, c'est ça. En gros, des gens mieux, si on focalise sur le bien-être, les gens seront plus performants. C'est exactement l'inverse. C'est parce que des gens vont avoir des conditions de travail qui vont les rendre autonomes, actifs, qu'ils seront heureux. Mais le bonheur est une conséquence, c'est pas une condition. Sinon, on instrumentalise le bonheur des gens.
Et alors, est-ce que, parce que c'est un peu la caricature aussi des GAFA et autres, est-ce que les plantes vertes, les chamallows, les baby-foot, etc., est-ce que c'est aussi une manière très pernicieuse de faire rester les gens beaucoup plus tard, de les faire venir beaucoup plus tôt, etc., enfin de leur donner au final des conditions de travail et une vie à l'intérieur de l'entreprise, c'est peut-être joli, mais pourquoi faire ?
Évidemment, quand on a la crèche dans l'entreprise, la piscine, l'ostéopathe, le psy, j'invente pas, c'est ce qui se passe réellement. On a, quand il s'agit de quitter
chez
son
qui,
job,
par exemple, un exemple.
J'ai pas envie de donner de nom parce que c'est un client. J'ai quand même pas envie de perdre
un
client.
mais alors attendez, allons-y. Je vais définir. Vous, c'est votre client, c'est.
Oui.
Vous arrivez dans cette entreprise, donc vous voyez qu'il y a effectivement un psy,
je le dis
un
très
ostéopathe.
Ouvertement.
Alors, voilà. Est-ce que vous leur dites, vous allez me fermer tout ça ?
Ah non, parce que je ne suis pas manager, je n'ai aucune responsabilité, aucun poids dans l'entreprise pour changer les choses. Mais dès que je rentre dans l'entreprise, je ne me prive pas et je jubile de dire, mais enfin, mettre des bonbons Haribo et des plantes vertes et des baby-foot, vous prenez les salariés pour des enfants. Même mes filles à la crèche ne font plus ça. Donc, jouer sur l'infantilisation.
Non, mais l'ostéo, moi, ça me paraît complètement hallucinant, en fait. Si j'ai mal au dos, donc j'ai un ostéo issu, mais si j'ai mal au dos, peut-être que l'idée, ce serait de travailler mieux. Du coup, j'aurais pas besoin d'aller chez l'ostéo, ni celui du boulot, ni celui qui est en bas de chez moi.
Enfin, exactement. Bah, c'est cette logique qu'il faut inverser, c'est tout ce qu'on essaye de faire dans le livre. Inverser ces raisonnements infantilisants.
Mais d'où vient cette logique, encore une fois ? À quel moment ça a été la mode ? À quel moment, parce qu'on ne va pas revenir en arrière trop longtemps, mais enfin, il y a eu la période tayloriste, terrible, avec le patron omniscient, omnipotent, etc. On a l'impression qu'on est dans une espèce d'excès purement inversé. Ça s'est passé quand, ce shift ?
Alors, on fait la généalogie, je ne peux pas le faire ici, mais on est passé effectivement d'un management très paternaliste, autoritaire, autoritariste, à aujourd'hui un management archi-démagogique, infantilisant, ludique, à souhait. Et nous, on le positionne à peu près, enfin, ça a commencé il y a 10-15 ans, vraiment. Et aujourd'hui, alors là, c'est le summum, puisque toutes les entreprises déménagent, font des technopôles magnifiques, on est en plein dedans. Mais c'est une mode qui s'est aussi importée des pays anglo-saxons, clairement. Toutes ces procédures qui se sont accumulées. Alors, on dit toujours, il y avait beaucoup de process depuis toujours. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le process prend le pas sur le sens et que les salariés sont accablés par les procédures et ne peuvent plus rien faire. On leur demande, vas-y, agis, entreprends. Et dès qu'ils agissent, il y a des tombereaux de procédures qui leur tombent dessus. Encore une injonction paradoxale.
Et des réunions et des slides et autres. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Allez-y Eric.
Oui, je suis pas là, juste avant de mon intervention, excusez-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'intervenante précédente que je viens d'entendre, parce que lorsqu'on a des superficies de bureaux sur Paris, on ne peut pas nécessairement mettre une table de ping-pong dans une salle dont
certes,
le prix du mètre carré n'est pas compatible avec la société. Pour revenir à ce que je voulais dire, excusez-moi, on parle toujours d'esprit d'entreprise, d'esprit d'équipe, des gens de la communication qui essayent d'entreprendre des nouvelles façons de créer ou de faire créer une sorte de cohésion entre les salariés et qui organise des activités et qui toujours se termine par une compétition où il n'y a plus de cohésion entre les gens. Le dernier exemple que j'ai vu, c'était lors des vœux de mon président l'année dernière, où on a été dans un bowling. Donc c'est complètement idiot, un bowling, hein, c'est une toute petite chose.
La métaphore est intéressante, cela dit, je trouve, dans le bowling. Enfin bon.
Mais les techniques ne se sont pas mélangées avec les administratifs, les ouvriers ne se sont pas mélangés avec les cadres, et par contre, l'équipe de trois personnes qui a gagné le bowling, on en a entendu parler pendant 3 mois. voilà. C'est donc ce que la com avait envisagé comme étant une cohésion du personnel de l'entreprise, c'est terminé par une compétition entre les gens. Voilà, pour moi, ça...
C'était totalement contre-productif pour le coup, Eric, c'est ce que vous nous dites.
Bah, à mon avis, oui.
Okay.
À mon avis, oui, et je trouve ça complètement déplorable parce que on entend souvent des choses. Excusez-moi si je prends un peu trop d'antenne.
Ouais. Donc bientôt, je vais vous couper sauvagement, mais allez-y, finissez quand même.
Je vais essayer de faire très court.
Ouais.
On entend les GAFA avec leur salle de ping-pong, leur salle de gym, leur salle de... Si vous êtes dans une société de 30 personnes sur Paris, c'est absolument impossible.
Eh ben merci pour ce témoignage, Eric, et cette partie de bowling qui visiblement n'est pas un grand souvenir. Julia de Funès, ce qui est intéressant dans ce que dit Eric, d'abord c'est le côté très vain d'aller au bowling, au tennis ou je ne sais où, faire un escape game,
même contraire
etc.
au but
voilà.
initial. Mais ce qu'a dit Eric, pardon, c'est que c'est très important sur les mètres carrés parisiens, parce que pourquoi on fait les technopôles sont pas en plein Paris, mais justement ils sont dans des zones un peu moins agréables à vivre, et donc pour motiver les gens, pour les amener à Val-de-Fontenay ou autre, et ben là on leur fait une cage dorée. Mais donc c'est pas contradictoire, c'est justement pour délocaliser de Paris. Et sur la cohésion, ce que disait Eric sur la compétition et la cohésion, c'est tout à fait vrai. L'entreprise pense que réunir des gens suffit pour créer un collectif.
Vous vous dites faut arrêter le collectif, on n'est pas une équipe de foot, quoi.
Alors non, pas arrêter. Évidemment qu'on ne fait rien. Individuellement, et que le collectif est une très belle valeur. Simplement, le collectif est, il y a une sorte d'inversion morale sur le collectif parce que c'est collectif, on va moins en faire individuellement. Quand on est 15 en réunion, on va moins bosser individuellement parce que de toute façon, si on bosse pas, ça se verra pas trop. Donc c'est cette sorte de mollesse du collectif qu'on critique, et il suffit pas de réunir des gens pour créer un collectif. Un collectif sportif, par exemple, une équipe de football, chaque individu a un poste bien précis, une passe bien précise, et a intérêt à travailler individuellement de façon assez rigoureuse. Donc quand le collectif est précédé d'un travail individuel, oui, mais c'est malheureusement pas souvent le cas en entreprise.
Vous dites qu'il faut effectivement repenser l'autonomie de chacun, c'est aussi ça que ça veut dire.
Voilà.
Ce qui risque aussi, l'un des effets pervers, ça peut être une terrible mise en concurrence de chacun. Faut-il encourager la mise en concurrence des salariés, jusqu'à quel point ?
Alors, autonomie, c'est pas forcément concurrence non plus, il y a des services différents, mais le fait de ne plus être auteur, acteur autonome et actif dans son métier, c'est ça qui crée, à mon avis, tous les mal-êtres. Ne plus être agissant, être engourdi, avoir son esprit et son intelligence engourdi par tout ce qui se fait de ludique, de procédure, etc., nivelle les individus vers le bas. Donc, se sentir sujet, prendre sa vie en main, il faut quand même être acteur. Donc, si le manager ou l'entreprise ne laisse pas cette place à l'autonomie, les gens ne pourront pas être heureux en entreprise. C'est pour ça que le bonheur ne se réduit pas à des baby-foot et des piscines et des cadres et une architecture sympa, mais s'explique aussi par l'autonomie possible pour les salariés.
Tiens, il y a ce message avec le hashtag Telson sur Twitter. Peut-être que c'est une question de génération, nous dit Alexandra. Nos jeunes collègues qui viennent d'intégrer l'entreprise, une grosse entreprise CAC 40, sont scandalisés d'apprendre que nous n'avons pas de Chief Happiness Officer et ils le déplorent. Ils trouvent que cela est rétrograde et nuit à leur épanouissement au travail. Est-ce qu'il y a un souci de génération ou peut-être un souci de vision de l'entreprise de la part de ce qu'on appelle la génération Y ?
Oui, parce que dans les startups, il n'y a pas de chief happiness officer, et dans les startups, les générations, on sait, sont un peu plus jeunes. Je crois pas du tout que ce soit générationnel. Il y a évidemment des beaucoup de chief happiness officers sont des emplois fictifs, parce que prétendre s'occuper du bonheur des gens est une fiction.
Et honnêtement, franchement, moi j'ai l'impression que c'est une vraie caricature. Ça existe vraiment? Enfin, il y en a beaucoup, on va dire. Si, il y en a sûrement
beaucoup. Il y en a quand même beaucoup maintenant. Et il y en a de plus en plus, en tout cas dans les grandes entreprises, il y en a de plus en plus. Celles qui ne l'a pas se sent justement ringarde, etc. Donc c'est cet effet de mode qu'on
essaie. Et public-privé ou pas?
Public-privé, bien sûr, bien sûr.
Donc ça veut dire que dans certaines grandes entreprises publiques, il y a des chief happiness officers.
Dans les CHU, il peut y avoir des CHO.
D'accord, formidable. Je me demande si on en a un, nous, à Radio France. En tout cas, si c'est le cas, je ne le connais pas. En tout cas, c'est pas Marie-Claude Pinson, la rédactrice-chef de cette émission, que je vois de l'autre côté de la vie. Tiens, ce message sur franceinter.fr. J'ai connu un salarié travaillant en open space qui m'a confié se réfugier dans sa voiture garée au parking pour s'isoler du bruit et de son espace de travail.
Vous imaginez.
Mais à un moment quand même, Julia de Funès, est-ce que les retours en arrière existent? C'est-à-dire, à un moment, on se rend compte qu'on va dans le mur, en fait, et que, en termes de productivité, par ailleurs, rien n'a changé dans l'entreprise.
Alors là, justement, avec Nicolas, on met le doigt un peu sur cette réalité. Alors, on prône pas un retour en arrière, on n'a pas du tout envie de retourner au paternalisme, à l'autoritarisme, mais au contraire, une marche vers l'avant en disant, il y a eu du bon. On est tombé un peu dans les deux extrêmes, le paternalisme et après la bébéphilie généralisée. Donc, je pense que, justement, on va vers un management adulte, responsable, autonome, et on est pile dans cette transition-là. Donc, pas du tout un retour en arrière, mais un après à cette folie de l'infantilisation.
Alice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Alice.
Donc je voulais intervenir parce que je suis dans une entreprise qui s'inspire effectivement de la libéralisation, etc. Et donc moi, je travaille en RH et je trouve ça assez intéressant. Mais en même temps, je suis extrêmement vigilante par rapport au métier parce que finalement, souvent, ces mouvements sont voulus par... comme je disais, bon, des DRH qui ont un petit peu ras-le-bol de s'occuper que de la masse salariale et qui ont envie d'amener un petit peu de sens un peu dans les actions et pourquoi les gens sont là au travail tous les jours. Donc ça, c'est le côté extrêmement intéressant. Moi, ce que j'essaie de faire, et dans notre entreprise, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver l'équilibre, en fait, entre le fait qu'on va décloisonner souvent des métiers qui n'avaient plus l'habitude d'échanger entre eux et en même temps, de pas non plus verser complètement dans le bonheur au travail, parce qu'il y a ses limites, en tout cas à mon sens. Et du coup, c'est comment on s'inspire de choses, mais pas forcément en les dupliquant. Comment finalement... l'activité concrète n'est qu'un moyen pour obtenir autre chose, mais aussi comment on fait en sorte d'être très vigilant pour dire, ben voilà, je fais peut-être des actions qui sont sympas pour les salariés, mais surtout, je leur donne une raison de venir et discuter avec leurs collègues, et c'est la cerise sur le gâteau, mais je dois pas oublier la prévention de base, c'est-à-dire qu'un salarié, ben, il doit avoir des conditions de travail qui sont confortables et qui sont bien. Et même si le collectif est un mot très très utilisé, c'est pas juste un collectif, faut dire que c'est un collectif, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est en fait c'est un processus de construire un collectif. Et si c'est un moyen, je trouve ça personnellement intéressant, si c'est juste effectivement de dire on prend ça parce qu'on va jeter de la poudre aux yeux et comme disait un monsieur précédemment, ça fait une super bonne image de la boîte, bah c'est un peu creux, de toute façon les gens on les garde pas, à un moment l'image, ils rentrent dedans, ils voient c'est faux, ils se barrent quoi.
Alice, est-ce qu'on peut avoir un exemple en fait de ce que vous avez essayé de bâtir vous en termes de collectif justement et qui selon vous a fonctionné auprès des salariés?
Par exemple, c'est des processus qui sont très longs, donc c'est le fait de faire réfléchir une équipe sur qu'est-ce qu'elle veut en termes de métier, en termes de fonctionnement, donc vraiment d'être acteur là-dessus. C'est d'avoir effectivement de prendre des gens qui sont dans des usines différentes et de les faire se rencontrer et de s'apercevoir que bah ils n'ont pas exactement les mêmes façons de procéder, pourtant c'est des métiers qui sont très proches et comment on va pouvoir finalement s'inspirer les uns les autres pour pouvoir s'améliorer dans les pratiques en arrêtant d'être juste enfermé des fois dans son bureau et de passer dans le bureau d'à côté pour échanger, se dire que le mot que l'on a, et ben en fait le mot du gars d'à côté, on dit on se comprend pas, mais c'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps de se faire un espèce de dictionnaire commun quoi. Et en fait ça marche, mais ça prend beaucoup de temps. Nous on est dans cette démarche là depuis maintenant plusieurs années et on commence à en voir les fruits. Et on sait que ça sera très opérationnel, mais dans longtemps, parce que c'est une mutation des relations et de l'organisation de l'entreprise.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Alice. Julia de Funès, la clé dans ce que dit, peu importe, tant mieux si ça marche dans son entreprise, oui, j'imagine qu'il n'y a pas de remède miracle. Mais ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est le long terme, effectivement. On a peut-être l'impression dans certaines entreprises que ça y est, t'es heureux, il y a quelque chose d'immédiat.
Une injonction,
une injonction, effectivement.
Qui double malheur, parce que si déjà on est malheureux, si en plus on nous demande d'être heureux, on culpabilise de pas l'être, donc on est malheureux deux fois. Mais ce que disait l'auditrice est la clé, à mon avis, c'est-à-dire que quand on ne fait pas du bonheur une fin, mais un moyen, ou qu'on ne fait que le sens, la finalité est posée, là on a un garde-fou formidable. Et le long terme, oui, mais il y a aussi des choses à très court terme qu'on peut mettre en place, des pistes très simples. Il suffit de diminuer les réunions par deux. Il y a 60% des réunions qui ne servent à rien, c'est une étude qui est sortie là, encore une fois. Il y a minimiser les reporting, les powerpoints, c'est pas du long terme. En une semaine, on peut remettre sur pied un fonctionnement un peu plus autonome et un peu plus actif.
Vous citez un exemple dans votre livre qui m'a fait beaucoup rire, avec une histoire de PowerPoint et 50 diapos.
Et le type au milieu.
Le type au milieu raconte aux auditeurs qui dit: je sais, c'est épouvantable, mais j'en ai encore
désolée,
au moins 50.
On n'en peut plus, mais j'ai pas fini. Alors arrête.
Bah oui.
non, mais on n'en peut plus.
Tous. Et alors, c'est vrai que souvent, on se dit que tout ça est quand même censé être frappé au coin du bon sens. Bonsoir, Pierre, tiens. Allez-y, Pierre.
Bonsoir. En fait, moi, ce que je voulais donner comme point de vue, moi, par rapport à mon entreprise, c'est qu'en fait, ils ont pris parti, en fait, d'intégrer tous les employés dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le sens où on est, nous, sur le terrain. Et en fait, ils nous demandent tout simplement de leur reporter un petit peu notre quotidien, savoir si on a l'équipement adéquat pour bien travailler, savoir si mes collègues, par exemple, qui sont en amont de mon intervention, si l'installation est bien, et sinon, quels sont les petits points qui pourraient être améliorés. L'autre élément aussi, c'est que toute décision que nos patrons veulent prendre pour faire évoluer l'entreprise, ils nous concertent à chaque fois. Ils considèrent qu'on est partie prenante au même titre qu'eux pour faire évoluer l'entreprise. Et par exemple, l'exemple que je donnais, c'est que il y a quelque temps, ils nous demandaient si l'achat d'un véhicule avec une nacelle aurait un intérêt réel au quotidien sur nos interventions. Et le fait est que, bon, dans notre quotidien, l'accès aux maisons de nos clients n'est pas toujours aisé, et avoir une nacelle n'aurait pas répondu à l'ensemble à une quantité suffisamment importante d'interventions, et ça nous aurait coûté extrêmement cher pour finalement aucune rentabilité. Et l'autre chose aussi, c'est que par exemple, ils nous ont clairement dit que si demain on voulait consulter leur salaire, leurs fiches de paye sont dans le bureau de l'entreprise, et on peut y aller à n'importe quel moment.
Vous l'avez fait ou pas?
Non.
Et je pense que c'est pour ça qu'ils vous disent que vous pouvez y aller, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils vous disent que vous pouvez y aller, Pierre.
Alors peut-être que c'est pour ça, mais je pars du principe que pour avoir fait suffisamment d'entreprises justement très paternalistes ou très directives, et grosso modo, j'étais qu'un numéro et on me le faisait bien comprendre. Là, je me sens vraiment inclus, intégré à l'entreprise. L'une des personnes que j'ai eues avant d'être en direct avec vous était surprise, parce que je disais facilement notre entreprise, parce qu'effectivement, la manière dont ils nous ont amené à voir cette entreprise-là, c'est que moi, je la considère comme la mienne en réalité, même si je suis qu'un employé. Mais je me sens vraiment investi dans cette entreprise, parce que pour avoir suffisamment galéré et avoir suffisamment croisé d'autres situations dans d'autres entreprises, avoir ce type de relation avec mes patrons, pour moi, c'est du jamais vu. Et j'ai vraiment envie que cette entreprise-là perdure, qu'elle avance, et qu'on avance tous avec mes collègues dans le même sens, quoi. On a tous connu des emplois différents.
Pardon de vous interrompre, Pierre, mais je vois que Julia Dufinès est en train de réagir à ce que vous dites. D'abord, on est ravis pour vous, évidemment, que ça se passe bien chez vous, qu'il y ait une vraie culture d'entreprise. C'est aussi ça que ça veut dire,
culture,
en fait.
Culture, et puis surtout une autonomie laissée aux salariés. Ils sont partie prenante, le monsieur l'a dit. Ils sont actifs, on leur demande leur avis. C'est exactement le témoignage inverse de la première personne de l'émission. Et ça montre bien que c'est pas les managers qu'il faut attaquer en tant que tel. Avec Nicolas, on n'est pas du tout dans le match syndicat versus patronat. C'est ringard, cette dichotomie-là. On s'est fait un peu attaquer en disant: ah, vous attaquez les patrons, c'est du bullshit de patron. Pas du tout, mais pas du tout. C'est, il y a évidemment des managers formidables, mais dès qu'on laisse de la place et de l'autonomie aux salariés, c'est la clé de la réussite et du mieux-être des salariés.
Vous dites deux choses en fait. Il faut effectivement redonner de l'autonomie aux salariés, mais il faut aussi redonner son rôle de chef au patron pour que les choses soient bien claires aussi. Voilà la personne qui décide.
Oui, parce qu'à force de tout niveler, de tout transversaliser, de tout latéraliser, on arrive à du flat, à du plat. Pour emporter des gens, motiver des gens, il faut des hommes charismatiques. Et le charisme, c'est pas une promotion. C'est parfois inné. Mais alors dire ça aujourd'hui qu'il y a des hommes plus ou moins et des femmes plus ou moins charismatiques, on a l'impression de les insulter. Pas du tout. Les inégalités sont pas des injustices. Les différences ne sont pas des injustices. Mais encore une fois, je prends un exemple. Elon Musk est tyrannique. Il peut être contestable. Alors sur 1000 points dans son management.
D'ailleurs, en ce moment, il va pas très bien. Et peut-être que c'est une conséquence aussi de cette forme de management.
Peut-être, exactement. C'est pas un modèle de management. Simplement, pourquoi tout le monde a envie de bosser pour lui? Parce qu'il y a un projet commun. Aller coloniser Mars, c'est clair. La mission est claire. Et parce qu'il est très charismatique.
Elle est très lointaine, la mission, oui. Quand même. Et c'est vrai que ça se passe moyen pour lui. En ce moment, il y a autre chose dans ce que dit Pierre-Julia de Funès, l'idée de pouvoir parler à quelqu'un. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans les points de votre livre. Il faut pouvoir dire les choses directement à son interlocuteur. Et directement, c'est vraiment directement.
C'est se regarder dans les yeux. Exactement. C'est se toucher, se serrer la main. C'est parler avec des mots qui parlent et des vrais mots. Et ne plus utiliser la nouvelle langue de l'entreprise qui diminue la pensée. C'est George Orwell, 1984. J'ai pas le réduire, mais moins on a de mots, moins on a de pensées.
Paul, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, allez-y.
Après Pierre, il y a Paul.
Voilà. Vous allez voir, il y aura un Jacques bientôt.
Écoutez, oui. Je voulais appuyer, effectivement, ce que venait de dire notre invité, là, tout de suite, c'est un peu ça. Moi, je travaille dans une entreprise d'un secteur des hautes technologies. Et malgré tout, il y a un gros décalage, très souvent, entre ce que nos managers ou ce que leurs managers, nos N+2, disent en termes de stratégie.
Et
ou...
N+2, paf, 2 euros d'amende, vous avez dit N+2, Paul.
Ah, pardon.
Allez-y.
J'ai pas tout suivi. Ben, écoutez, je veux bien payer. Et l'effet opérationnel de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment les travaux ou en tout cas les technologies qu'on nous demande de sortir, quoi. Et ce décalage-là, en fait, j'ai l'impression qu'on vit un peu un jeu de dupe à ce niveau-là. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est un effet de l'époque, ou est-ce que on a envie de croire qu'on est mieux que ce qu'on fait vraiment. Et au bout d'un moment, c'est très vivant. Et je le vois avec mes collègues, je le vois avec mes collaborateurs. Au bout d'un moment, on n'accepte plus ce discours-là.
C'est-à-dire, c'est un discours qui est quoi, trop optimisant, trop allez-y.
Trop décalé en fait, pas synchronisé avec l'opérationnel. Voilà.
D'accord.
Et on ne sait pas exactement aussi non plus quel est le degré de ce que pensent réellement nos managers là-dedans. Est-ce que c'est que du discours, c'est politisé, donc c'est que du discours répété, ou est-ce que c'est vraiment acquis, est-ce que c'est vraiment quelque chose que ces gens-là veulent, en tout cas.
Merci Paul.
Et c'est assez déstabilisant.
Merci Paul. Ce que j'entends dans le discours de Paul Julia de Funès, c'est finalement, il a du mal à savoir à quoi il sert et ce qu'il fait dans l'entreprise, puisqu'il y a un décalage avec le discours, visiblement, même les patrons n'arrivent pas très bien à savoir ce qu'ils attendent d'eux. Au fond, c'est ça que ça dit.
Et là, encore une fois, c'est pas forcément la faute des patrons, c'est qu'on vit dans un univers de plus en plus technique, technologique. Alors, une technique, c'est un moyen, c'est jamais une fin en soi. Une entreprise qui crée plus de pixels sur un écran, c'est quoi la finalité? C'est juste de demeurer sur le marché et de pas, c'est darwinien, une entreprise qui n'innove pas, qui marche pas financièrement. Elle disparaît. Donc la finalité n'est pas forcément tangible au sens où on ne rend pas l'homme plus heureux, plus libre. Ça devient des problèmes techniques, technologiques. Donc c'est très difficile aussi d'expliquer à ses salariés que la finalité, parce que la seule finalité, c'est de résister financièrement. Donc encore une fois, ce n'est pas les patrons qu'il faut accabler là-dedans, mais c'est de se trouver un projet clair dans cet univers qui est de moins en moins sensé aussi.
Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir. Attendez, c'est pourquoi je suis sur ce statut. Oui, moi, je voulais porter mon témoignage. Je suis salarié d'une entreprise depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai connu l'évolution de cette entreprise qui était à l'origine, quand je suis rentré, avec un fonctionnement paternaliste. Et aujourd'hui, depuis maintenant, pas loin d'une dizaine d'années,
on est dans un fonctionnement qui tourne essentiellement autour de la com. Mmh. Et pour essayer de faire, alors je suis dans une entreprise de haute technologie, entre guillemets, et pour essayer de faire le lien, on nous réunit devant des indicateurs. On passe de notre temps devant des indicateurs, à faire du coloriage, avec des indicateurs qui sont complètement stupides. Hein. On est dans des bureaux, on doit porter des chaussures de sécurité. Et ce point est relevé dans l'indicateur. Mmh. Et on doit proposer un projet innovant alors qu'on est dans des boulots administratifs. Mmh. Personne ne comprend plus rien à ce système. Hein. Donc on se réunit.
Et vous savez pas pourquoi, c'est terrible ce que vous nous racontez.
C'est désespérant.
Et d'ailleurs, ça s'entend votre voix que c'est désespérant, Philippe. On est dans l'absurdité en fait, Julia
Total.
De Funès, au fond.
Et on est aussi dans le quantifiable. Ce que dit monsieur, c'est typique de nos sociétés là, au-delà de l'entreprise, dans notre société actuelle française en tout cas, où on évalue tout quantitativement. On met des étoiles et des plus et des likes à tout va. Et c'est pas possible de réduire l'humain à du quantitatif, à du mathématique, à du like et à des 5 étoiles. Donc encore une fois, l'humain, déjà, il n'a plus le sens et en plus, il est réduit à quelque chose de très mathématique. Donc il y a de quoi effectivement désespérer.
Alors tiens, je voudrais qu'on finisse sur deux notes un petit peu différentes, enfin pas finir tout à fait d'ailleurs. J'ai rejoint un labo de pharmacie en septembre. J'ai rencontré des gens réellement gentils, ouverts, qui ont envie que je réussisse mon intégration. Cette gentillesse continue même après. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que ça fait partie de la culture de la maison. C'est ce que nous dit Gilles sur franceinter.fr. Ça s'improvise pas, une culture d'entreprise.
Non,
c'est pas à l'entonnoir que ça fonctionne.
Ça s'improvise pas, ça se placarde pas sur des chartes éthiques avec des belles valeurs affichées comme dans toutes les belles grosses boîtes.
Vous voulez qu'on enlève les chartes, vous, d'ailleurs?
Quand elle ne rime à rien et qu'il y a écrit honnêteté, intégrité, excellence, c'est quand même la moindre des choses d'être honnête, intègre et excellent dans son job. Donc si c'est pour des lapalissades comme ça, non. Mais en revanche, une culture d'entreprise, ça s'improvise pas et surtout ça s'incarne. Tant que les valeurs ne sont pas incarnées par des comportements, ça ne rime à rien.
Et donc du coup,
à
ça
de
se
la
transmet.
Com, comme disait monsieur.
Et quand ça s'incarne bien, ça se transmet.
Exactement, ça donne envie et ça se transmet.
Aujourd'hui, on a fait la photo d'entreprise. Pardon Corinne, mais il m'a fait rire votre email sur franceinter.fr. Aujourd'hui, on a fait la photo d'entreprise afin d'améliorer la cohésion de l'équipe, mais le patron a oublié de m'appeler pour la photo. C'est ce que nous raconte Corinne.
Sur les photos, j'étais il y a 3 jours à un séminaire et le manager dit on va faire 2 photos comme à l'école, c'est-à-dire la photo sérieuse et puis après la photo fun, la photo où on éclate de rire.
Donc soyez subitement riez.
Évidemment, j'ai bondi, mais c'est plus possible de prendre les salariés pour des imbéciles.
Allez,
heureux.
heureux. Tant qu'ils sont heureux. Oui. Julia de Funès, merci beaucoup.
Merci
votre
à vous.
Bouquin s'appelle La comédie inhumaine, comment les entreprises font fuir les meilleurs. C'est publié chez l'Observatoire avec Nicolas Bouzou. Merci à tous pour vos très nombreux appels et portez-vous bien. Laura Adler sera là dans 3 minutes sur France Inter, il est 20h.